Bien, je ne suis pas forcément le mieux placé pour parler de ce sujet. Il y aurait pu avoir Jean Massinco, qui n'est pas là cette année, mais qui est responsable en France de cette association qui s'appelle Israël Ma Gloire et qui publie de nombreuses revues pour expliquer aux Juifs la position des chrétiens évangéliques et pour témoigner aux Juifs de l'Évangile. Il y a aussi d'autres associations, mais j'aimerais commencer juste pour savoir combien y a-t-il parmi nous aujourd'hui de Juifs qui croient que Jésus est le Messie. Est-ce qu'ils voudraient juste se lever? On a un et deux. Didier, Paul et David, voilà, c'est ça. Trois, ben c'est pas mal, trois, ça fait presque 3% comparé à la population totale. On a l'habitude de dire, oui, il y a les juifs d'un côté et les chrétiens de l'autre. Mais là, on a des juifs chrétiens. Et j'aimerais un peu démêler les fils parce qu'il y a beaucoup de confusion concernant Israël dans les esprits. Et c'est ce qui fait qu'Israël est contesté. Il y a d'abord beaucoup d'antisémitisme en France. Nous sommes un des pays où l'antisémitisme se manifeste le plus. Il y a des statistiques qui le prouvent, des attaques de synagogues, de rabbins, de fils de rabbins, de juifs, des cimetières, etc., qui viennent en majorité de musulmans, mais pas seulement. Il y a aussi des gens non musulmans qui n'aiment pas les juifs. Et parmi les chrétiens, il y en a un certain nombre aussi. Et nous allons voir, cela est historique. Et je me demande si parmi nous, il y a des personnes qui ont des préjugés sur les juifs. Qui disent, ah oui, les juifs, ils sont tous comme ci, tous comme ça, ou Israël, il nous ennuie. Est-ce que vous êtes comme la communauté européenne qui a... Merci. Voilà. Sinon, j'avais ça dans l'œil. Comme la communauté européenne qui a fait une déclaration fracassante disant que s'il n'y avait pas Israël, il y aurait beaucoup plus de paix dans le monde. Sous-entendu, ce sont encore les juifs qui nous ennuie et qui empêche la paix mondiale. Et nous savons que tout cela concourt au plan de Dieu qui est annoncé dans les Écritures. Est-ce qu'ils ont droit à leur pays ou est-ce qu'ils sont de simples occupants de la Palestine? Est-ce qu'ils ont droit à l'Évangile, les Juifs? Est-ce qu'on doit les haïr parce qu'ils ne croient pas en Jésus ou parce qu'ils auraient tué Jésus? Est-ce que les prophéties sur Israël que l'on trouve à la fois dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau, dans l'Apocalypse, eh bien, sont terminées? Est-ce qu'elles sont toutes accomplies, comme croit la majorité des chrétiens dans le monde? Est-ce que l'Écriture, lorsqu'elle parle d'Israël, eh bien, n'a plus rien à nous dire? Est-ce qu'Israël est aujourd'hui comme la Corée, la Turquie, je ne sais pas, n'importe quel pays, ou est-ce qu'elle est encore spéciale dans le plan de Dieu? J'aimerais qu'on puisse répondre à ces questions. Et mon premier point, c'est de montrer comment la chrétienté a supplanté Jacob. Et j'ai mis ce titre comme un jeu de mots. Israël, c'est le nouveau nom de Jacob, si vous lisez dans la Genèse. Hein. Et Jacob, qu'est-ce que ça voulait dire en hébreu? Jacob, le supplanteur, parce qu'il avait supplanté son frère. Et quand il a lutté avec Dieu, Dieu l'a appelé Israël, Israël qui veut dire qui lutte avec Dieu. Eh bien, la chrétienté est venue plus tard supplanter le supplanteur, parce que nous allons le voir un peu dans l'histoire, l'Église chrétienne et la chrétienté en général, c'est-à-dire remplie de vrais et de faux chrétiens, a voulu prendre la place des Juifs comme peuple élu. On voit aujourd'hui que c'est l'islam aussi qui dit que Abraham était musulman, que Moïse était musulman, que tous les prophètes juifs en fait étaient tous musulmans et qui essayent d'enlever aux Juifs et à Israël son héritage et de supplanter. Pourtant, tout avait bien commencé au début de l'ère chrétienne, au début de l'Évangile, puisque le Seigneur Jésus est juif. Les premiers chrétiens étaient juifs. Tout a commencé en Israël. La première église était à Jérusalem. Et j'aimerais qu'on ouvre la Bible et qu'on voit une vérité perdue qui se trouve en Romains chapitre 11. Et Romains chapitre 11 va être le fil conducteur de ce message. C'est le chapitre négligé. Par curiosité, combien de pasteurs qui sont présents ou de prédicateurs ont déjà prêché dans leur église, dans leur vie, sur Romains chapitre 11? 2, 3, 4, pas mal. C'est déjà bien parce que c'est un chapitre souvent qu'on néglige. Et que dit l'apôtre Paul, inspiré par Dieu au premier verset? Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Et verset 2, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Et les premiers chrétiens croyaient cela. Ils disent, c'est pas parce que l'évangile est ouvert aux non-juifs, aux gentils, aux nations. Ça, ce sont des termes synonymes dans le Nouveau Testament. Quand vous voyez nation, ça ne veut pas dire la France ou la Belgique, ça veut dire les non-juifs. Dieu a ouvert l'évangile aux nations, mais c'est pas pour cela qu'il a rejeté son peuple Israël. On a retrouvé les écrits d'un missionnaire en France du deuxième siècle qui s'appelait Irénée, qui a travaillé tout près d'ici à Lyon. Il était de Turquie et il est un des premiers missionnaires en Gaule, parce que c'était la Gaule. Et c'était un homme qui croyait au règne millénaire de Christ à Jérusalem. Voilà ce qu'il a écrit. Lorsque l'Antéchrist aura dévasté toute chose dans ce monde, il règnera pendant 3 ans et 6 mois et s'assoira dans le temple à Jérusalem. Et alors le Seigneur viendra du ciel dans les nuées, dans la gloire du Père, et enverra cet homme et tous ceux qui le suivent dans l'étang de feu. Mais il amènera l'étang du royaume pour les justes au 7e jour. Il restaurera l'héritage promis à Abraham, royaume dont le Seigneur a dit que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Et donc, Irénée croyait que l'héritage promis à Abraham allait revenir et que tout cela se passerait à Jérusalem, que Christ reviendrait à Jérusalem. Mais très tôt, les relations entre juifs et non-juifs dans l'Église se sont un peu corsées. Elles se sont dégradées. La première église était à Jérusalem, livre des Actes. Actes chapitre 15, on voit le premier concile qui se passe à Jérusalem avec la plupart des apôtres qui étaient juifs. Mais ensuite c'est l'église d'Antioche qui a pris la prédominance. Et puis, très tôt, l'église de Rome. C'était la plus grande église parce qu'elle était dans la capitale de l'Empire romain, c'était la plus riche. Il y avait beaucoup de juifs à Rome, mais en l'an 70, lorsqu'Israël a été dévasté par les Romains, les Juifs ont été chassés de Rome, parce qu'ils n'étaient plus voulus. Et là, l'église de Rome s'est retrouvée faite de non-juifs uniquement, chrétiens, et les relations se sont dégradées. Il y a eu une séparation. Paul, dans 1 Thessaloniciens 2,15, déjà parle des juifs qui étaient ennemis des chrétiens. Il dit, ils ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, ils nous ont persécutés, ils ne plaisent point à Dieu, ils sont ennemis de tous les hommes. Est-ce qu'il parle de tous les juifs? Non, il était juif lui-même, Paul. Donc il n'est pas en train de dire, je me suis persécuté moi-même. Mais il parle d'une catégorie de juifs qui voulaient à tout prix éliminer ces juifs qui croyaient en Jésus. Et donc il poursuivait l'apôtre Paul partout où il allait dans le monde et il le suivait et je crois qu'ils en avaient fait un ministère à plein temps et partout où Paul prêchait il passait juste après lui et il disait ce que ce juif a dit est faux, c'est un apostat. Vous imaginez quand vous avez votre ministère, vous prêchez l'évangile, il y a des gens qui viennent à la foi et puis juste après vous il y en a qui disent ne l'écoutez pas, c'est un menteur. Vous savez, ça doit être dur à vivre. Et donc il y avait une frange du peuple juif qui a commencé à être ennemi des chrétiens juifs. Et il y a eu aussi Bar Kokhba, qui était un révolté en Israël, qui s'est révolté contre l'Empire romain, et qui, lui, a obligé des juifs chrétiens à renoncer à leur foi. Hein, il a dit, reniez, sinon je vous tue sur place. Et donc, Israël s'est défendu contre cette nouvelle secte qu'on appelait la secte des Nazaréens. Et ils se sont défendus quelquefois par la force. D'un autre côté, parmi les chrétiens, eh bien, il y a eu de plus en plus de non-juifs qui sont devenus antisémites, qui ont dit ces juifs, puisqu'ils ne veulent rien savoir, puisqu'ils ont tué Jésus, hein, c'est ça qu'on a commencé à dire, eh bien, il faut se séparer d'eux. D'abord, il y a eu des signes trompeurs qui ont fait croire à ces non-juifs que Israël avait été rejeté définitivement du plan de Dieu. Quels signes trompeurs ? D'abord, en 70 de notre ère, les armées de Tite prennent Jérusalem, détruisent, brûlent le temple, emmènent tous les ustensiles du temple, sauf l'arche qui avait déjà disparu. Ils détruisent Jérusalem, ils massacrent des milliers de juifs partout et Israël a vraiment connu une autre dispersion, un autre drame national à ce moment-là. Et là, qu'est-ce qu'on dit, les non-juifs chrétiens? C'est le jugement de Dieu et c'est la preuve qu'Israël est rejeté parce que Dieu les a mis dehors de leur pays. D'un certain côté, nous croyons que c'était un jugement de Dieu. Parce que Jésus avait annoncé, il avait dit, puisque vous ne voulez pas croire en moi, les nations viendront, entoureront la ville. Hein? Et Jésus a pleuré sur Jérusalem. On voit ça dans les évangiles. Mais ce jugement ne veut pas dire qu'Israël a été rejeté. Ça veut dire qu'il est châtié comme un fils, hein? Mais pas rejeté. Un autre signe trompeur, c'est lorsque l'empereur Constantin, en 321 de notre ère, a fait triompher, si on peut dire, la religion chrétienne. Jusque-là, les chrétiens avaient été persécutés sous tous les empereurs, pratiquement. Hein, vous connaissez les récits des chrétiens mis dans les cirques et qui sont dévorés par les lions, brûlés vifs, surtout sous Néron. Et puis vient un empereur qui dit « Moi, je me suis converti au christianisme. Désormais, le christianisme est la religion officielle de l'Empire romain. Le paganisme est rejeté et le judaïsme aussi. » Et Constantin n'a eu de cesse que de faire disparaître toute trace de judaïsme et de paganisme, notamment en Israël, où il y avait sa maman, la reine Hélène. Et la reine Hélène a remplacé tout ce qui était juif à Jérusalem par des choses chrétiennes. C'est elle, nous allons le voir tout à l'heure dans des photos, dans une image, qui a fait construire l'église du Saint-Sépulcre. Hein, cette fameuse église qui existe toujours, et toutes les églises, là où il y a eu la résurrection soi-disant, là où il y a eu la crucifixion, là où il y a eu la naissance, le baptême, etc., tous ces lieux ont eu une église construite pour dire, maintenant c'est chrétien, ce n'est plus juif. Non seulement cela, mais le temple juif qui était détruit a été laissé volontairement en ruine pour montrer qu'il y avait maintenant la nouvelle Jérusalem, les chrétiens. Et que l'ancienne Jérusalem était rejetée, remplacée. Et puis même, et on a été plus loin, on a fait du lieu du temple un lieu de dépôt d'ordures et de fumier. C'est ainsi qu'il existe aujourd'hui la porte du fumier. La porte du fumier ne date pas de la Bible, elle date de l'Empire byzantin, de la chrétienté. Pour eux, les juifs étaient bons pour le fumier. Voilà comment les relations se sont dégradées. Et ça a continué avec l'Église catholique romaine qui a très vite persécuté les juifs, notamment et surtout en Espagne où il y a eu des pogroms, il y a eu des massacres, il y a eu des signes, ils ont pratiquement inventé l'étoile jaune hein, au Moyen-Âge où on marquait les juifs d'un signe distinctif. On les parquait dans des lieux, par exemple en Italie, à Rome. Le Vatican faisait parquer les juifs dans un endroit au Moyen-Âge et il y avait une maison des catéchumènes qui était en dehors du ghetto. Donc j'étais en train de parler du catholicisme romain qui a persécuté les juifs, qui en a tué de nombreux, qui les a forcés à se convertir. Donc je disais qu'il y avait ce ghetto juif au Vatican à Rome et il y avait la maison des catéchumènes. Si on voulait sortir du ghetto, il suffisait d'aller dans cette maison des catéchumènes en disant « Je veux être baptisé catholique ». À ce moment-là, vous aviez des cours par des prêtres, vous étiez baptisé dans une grande cérémonie et vous étiez libre, vous pouviez aller dans Rome, travailler, faire tout ce que vous voulez, mais si vous ne faisiez pas ça, vous restiez dans le ghetto. Mais si vous étiez le mari, par exemple, et que vous disiez « Je veux être baptisé », on vous disait « D'accord, à condition que tu amènes ta femme et tes enfants pour être baptisé également ». Et pendant des siècles, les Juifs ont été maltraités, rejetés, persécutés par les chrétiens, par la chrétienté. Et ce n'est pas étonnant si aujourd'hui ils ont du mal, quand on leur parle de Jésus, à entendre, à écouter, à être sensibles. Tout ce qu'ils ont appris, c'est qu'on leur a fait du mal. Également, les protestants, figurez-vous, n'ont pas été meilleurs. Martin Luther, au début, quand il s'est converti en lisant les Écritures, a cru qu'Israël allait aussi venir à la foi en nombre. Et il avait beaucoup d'espoir au début. Et quand il a vu que les Juifs ne l'écoutaient pas quand il leur parlait du Seigneur, il a commencé à se retourner contre eux. Il a écrit des choses très dures sur les Juifs. Il a même recommandé de les faire partir des villes, des choses étonnantes de la part d'un réformateur qui lui-même a souffert de persécutions, et il était prêt à persécuter les Juifs. Calvin n'était pas violent envers les Juifs, mais dans ses écrits, il leur parle avec un certain mépris en disant que c'est le peuple au cou raide. C'est biblique, mais ça ne résume pas tous les Juifs. Tous les Juifs ne sont pas le peuple au cou raide. C'est finalement au XIXe siècle, avec Darby notamment, qu'un certain nombre de protestants sont revenus à la lecture littérale, historico-littérale de la Bible, des prophéties, en disant « Mais Israël est toujours dans le plan de Dieu. Dieu n'a pas rejeté son peuple, loin de là. » Et à ce moment-là, l'amour des chrétiens protestants pour Israël a commencé à naître. Ils ont même encouragé les Juifs à retourner en Israël dès la fin du XIXe siècle. Il y a eu des premiers pionniers juifs avec des protestants qui sont allés en ce qu'on appelait la Palestine. Et ils ont aidé, et ils aident encore aujourd'hui, les Israéliens et les Juifs dans le monde entier. Mais avec le rejet, il y a aussi la théologie qui s'est attaquée aux Juifs, l'arme de la théologie. Ceux qu'on appelle les pères de l'Église, qui sont les grands théologiens des 4 et 5 premiers siècles, ils étaient latins ou grecs, ce sont eux qui ont petit à petit donné à l'Église en général, occidentale, une direction théologique. Et la plupart étaient opposés aux Juifs. Ça a commencé avec Justin Martyr, au IIe siècle, qui a dit que l'Église devait être séparée des Juifs. Et il a écrit ça dans son dialogue avec Tryphon, qui était un Juif. On ne sait pas s'il était un Juif imaginaire ou un vrai Juif. Mais dans tout un dialogue où il répond à un juif qui ne veut pas croire en Jésus. Ensuite, il y a eu Origène au IIIe siècle. Origène, c'est celui qui a inventé l'interprétation de l'Ancien Testament allégorique. C'est-à-dire, vous ne prenez pas le passage tel qu'il est, mais vous essayez de trouver des images. Jérusalem, ça représente l'Église. Le temple, ça représente l'Église. Il a allégorisé toutes les prophéties. Pourquoi ? Parce que pour lui, ça ne s'appliquait plus à Israël, ça s'appliquait à l'Église. C'est ce qu'on appelait, et qu'on appelle encore aujourd'hui, la théologie de la substitution. L'Église remplace Israël. Et puis, il y a eu Eusèbe de Césarée qui parle de l'empereur Constantin, qui a dit ceci : on a jugé que pour toutes les églises, il n'était pas convenable de célébrer la fête de Pâques en suivant la coutume des Juifs, dont les mains sont souillées par un crime abominable. Que peuvent savoir des hommes qui, après le meurtre du Seigneur et ce parricide, ne se conduisent plus selon la raison, mais sont emportés par des pulsions irrésistibles. Donc voilà ce qu'on pensait des Juifs, ça c'était au IVe siècle. Cinquième siècle, Augustin, le fameux Saint Augustin, qui est le père de l'Église catholique romaine, pratiquement, voilà ce qu'il a dit. « Laissons les Juifs vivre parmi nous, mais faisons-les souffrir et gardons-les dans l'humiliation. » C'est gentil. Également, il a écrit « La véritable image de l'hébreu, c'est Judas Iscariote, qui a vendu le Seigneur pour de l'argent. Le Juif ne comprendra jamais les Écritures et portera à jamais la culpabilité de la mort de Jésus. » Quand on dit des choses pareilles, comment voulez-vous que les chrétiens qui vous suivent aiment les Juifs ? Jean Chrysostome, un grand prédicateur, son nom Chrysostome, ça signifie en grec la bouche d'or. Mais il n'avait pas toujours une bouche en or parce qu'il dit « Lorsque tu t'éloignes de l'Église pour entrer en communion avec ceux qui ont répandu le sang du Christ, c'est-à-dire les Juifs, n'as-tu pas honte ensuite de venir communier à la table sacrée ?» et prendre part au sang de Christ. Chrysostome voulait que les chrétiens se séparent des juifs, hein, parce que c'était les meurtriers du Christ. Mais ce n'était pas forcément de l'antisémitisme racial, ça c'est plus tard, c'était de l'antisémitisme théologique, si vous voulez. Parce que les juifs ne voulaient pas croire en Jésus, nous devons les considérer comme des apostats, des hérétiques, et les rejeter. Il y a eu, donc, je l'ai dit, la force également. Et il y a eu également des choses théologiques comme le protocole des sages de Sion. C'est un ouvrage qui a été écrit par un Russe au début du XXe siècle et qui est soi-disant le récit d'une conférence entre rabbins qui explique comment ils vont gouverner le monde. Comment ils vont mettre en place la gouvernance juive du monde. C'est ce qu'on appelle le fameux complot juif. Ce protocole des sages de Sion a été utilisé beaucoup par Hitler pour répandre l'antisémitisme et la haine du juif. C'est un faux. C'est-à-dire, au départ, ce livre, c'était le dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, écrit par un Français, Maurice Joly. Et ce dialogue aux enfers, c'était pour montrer que Napoléon voulait s'emparer de tous les pouvoirs dans la société française. Voilà le but des protocoles au départ. Et le Russe, il a pris ce livre, il l'a plagié en remplaçant Napoléon, enfin Montesquieu et Machiavel, par les Juifs. Mais il a plagié pratiquement tout le livre. Et il a utilisé ça pour répandre la haine du Juif. Aujourd'hui, ce protocole des sages de Sion est très lu et surtout même il a été fait sous forme de film dans les pays arabes. Les Égyptiens, par exemple, se sont régalés d'une longue série de feuilletons qui raconte le protocole des sages de Sion, et ils sont bercés dans cette idée que les juifs sont des chiens, des cochons, des singes. Hein? C'est comme ça qu'ils les appellent. Et cette haine, bien sûr, eh bien, explique l'antisémitisme et la violence contre Israël. Bon, j'aimerais montrer quelques images. Voilà Constantin, l'empereur, donc, qui a commencé à mettre les juifs de côté. Le Saint-Sépulcre, construit en face du temple sur une colline plus élevée pour bien montrer que c'était la nouvelle Jérusalem. L'étoile jaune pendant la Deuxième Guerre et tous les camps de concentration dans lesquels plusieurs millions de juifs ont été exterminés sans pitié. J'aimerais maintenant passer au deuxième point et reprendre Romains chapitre 11. Et je voudrais qu'on lise Romains 11 à partir du verset 11. Romains 11, 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché les Juifs ? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous ? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Pour résumer, il est écrit ici que nous qui ne sommes pas juifs, mais qui avons cru en Jésus, nous avons été greffés sur l'olivier qui est Israël. L'olivier a des racines et j'aimerais qu'on voit d'abord la distinction entre l'Église et Israël, car il y a une distinction dans la Bible. Il n'est jamais dit dans le Nouveau Testament que l'Église soit le nouvel Israël. Ce n'est jamais dit. Pourtant, vous entendez peut-être encore aujourd'hui des chrétiens non-juifs qui disent « C'est nous, Israël !» Et certains même adoptent un langage juif, même des façons de s'habiller, ou je sais pas, ils mettent une croix, une étoile de David, disent « C'est nous les chrétiens qui sommes Israël !» C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas biblique. Mais on me dit, regardez quand même, Galates 6, 16. Qu'est-ce qui est dit là? Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Alors, c'est dans le Nouveau Testament. Est-ce que l'Israël de Dieu, ce n'est pas les chrétiens, l'Église? Hein? Et parce qu'il dit juste avant, verset 15, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Donc moi, je ne suis pas juif, mais je suis une nouvelle création, alors je suis l'Israël de Dieu? Non. Il dit paix sur ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Et ce qu'on voit dans la Bible, c'est qu'il y a deux sortes d'Israël, si on peut dire. Jésus et l'apôtre Paul ont bien expliqué que tout descendant d'Abraham n'est pas Israël. C'est pas parce que je suis descendant par la chair d'Abraham que je suis de l'Israël de Dieu. Il y a l'Israël de la chair et l'Israël qui a cru au Seigneur, qui a obéi, qui a vraiment été l'Israël croyant. Et l'Israël de Dieu, c'est l'Israël croyant. Paul, en Romains 2, 28-29, par exemple, Romains 2, 28-29, dit « Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qu'il est intérieurement. La circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. » Romains 9, verset 6. Ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Il est dit en Isaac, il y aura une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse. Donc, ce n'est pas parce que je suis né juif d'une famille juive que je suis l'Israël de Dieu. L'Israël de Dieu, c'est les juifs qui croient. Dans l'Ancien Testament, c'était les juifs qui obéissaient au Seigneur, qui faisaient les sacrifices pour leurs péchés, et qui croyaient au salut par la foi. Le salut a toujours été par la foi, et par la foi dans le sang versé. Sauf qu'avant Jésus-Christ, ils croyaient au futur Messie, et après, ils croient au Messie qui est venu. Aujourd'hui, l'Israël de Dieu, c'est qui? Ce sont les Juifs qui croient en Jésus. Mais ce n'est pas l'Église. Il y a une distinction qui est faite encore par l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 10, 32. Où Paul écrit « Ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, pardon, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. » On voit là trois catégories. Les Grecs, c'est-à-dire les non-Juifs en général, hein, c'est comme ça qu'on désignait les païens, les Juifs et l'Église. L'Église n'est pas les Juifs. Les Juifs ne sont pas l'Église. Bien qu'il y ait des Juifs dans l'Église, mais Israël est toujours à part. Est toujours dans le plan de Dieu. Israël n'a pas été remplacé par l'Église. Et ça, c'est un peu le message que j'aimerais laisser, parce qu'il y a cette théologie de la substitution qui bat son plein, notamment chez les protestants, où ils disent « c'est fini avec Israël ». Et il y a un certain nombre de protestants qui n'aiment pas les Juifs pour cette raison. Maintenant, j'aimerais qu'on voit la prééminence d'Israël dans le plan de Dieu. Qu'on revienne à Romains 11, Il dit, toi, tu n'as pas à te glorifier si tu es non-juif, parce que tu as été greffé sur l'arbre. C'est l'image de deux oliviers qu'il donne. Il y a l'olivier franc, c'est-à-dire l'olivier qui porte du fruit, qui est un olivier cultivable, si on peut dire. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est la racine, c'est-à-dire Dieu choisit un peuple tiré d'Abraham, et ce peuple, Dieu va le bénir, va lui donner la loi, les promesses, les alliances, sa révélation, le temple, les sacrifices. Et ce peuple va devoir bénir tous ceux qui l'entourent, tous les autres qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas hébreux, qui ne sont pas descendants d'Abraham. C'est ça le plan de Dieu. Et c'est cet olivier que Dieu a planté avec Abraham et qui a poussé jusqu'avec cette promesse qui est accomplie en Jésus-Christ, le Messie. Le Messie est juif. Jésus a dit « Le salut vient des juifs ». Vous savez, c'est Jésus qui l'a dit, mais il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal à accepter cette vérité. Le salut vient des juifs. Quand on n'aime pas les juifs, c'est dur à entendre. Qui est-ce qui l'a dit ? Le Seigneur Jésus. Hein, dans Jean chapitre 4. Pourquoi ? Parce que c'est cet olivier-là. Les juifs n'ont pas de gloire à avoir. Dieu les a choisis par pure grâce. Il a dit, je vous ai choisis parce que vous êtes le moindre de tous les peuples. Ils n'ont pas à se glorifier. Mais nous qui sommes non-juifs et qui avons cru, nous n'avons pas non plus à rejeter et à nous glorifier. Nous sommes greffés, nous étions nous sur un autre olivier, qui est appelé dans Romains 11 l'olivier sauvage. L'olivier sauvage, il donne rien. Hein, il est trop sauvage, on ne peut pas vraiment le cultiver, il vous donne 3 grains là de petites olives. Il a besoin d'être greffé. Mais là, il va faire une greffe à l'envers. Au lieu de prendre un morceau de l'olivier franc, c'est ça qu'on fait normalement en agriculture, hein, et de le mettre sur l'olivier sauvage, il va prendre un morceau d'olivier sauvage, il va le greffer sur le bon olivier. Et cet olivier sauvage, ces branches greffées, c'est tous ceux qui sont parmi nous ici, qui ont cru en Jésus et qui ne sont pas juifs. Nous avons été greffés. Franchement, ça change toutes les choses par rapport à Israël. J'ai été greffé sur l'olivier, sur l'Israël de Dieu, sur le plan de Dieu, hein, pour Israël. Donc, je ne suis pas un olivier à part. Il n'y a pas nous, hein, les chrétiens et puis les juifs. Non, j'ai été greffé sur cet arbre et je n'ai pas à me glorifier de tout ça. L'épouse de Dieu, c'était Israël dans l'Ancien Testament. Hein, Ésaïe 54, 5, Dieu dit, l'Éternel est ton époux. Il dit ça à Israël. Et qui est l'épouse dans le Nouveau Testament ? C'est l'Église, mais greffée sur cet arbre, toujours. C'est toujours la même, le peuple de Dieu, et nous avons été greffés. Israël est premier. Il a les racines. Il a la loi, les promesses, l'alliance. Nous sommes second, greffés par la grâce de Dieu sur la lignée spirituelle d'Abraham. Mais ici, dans le passage de Romains 11, il dit, nous devons, on va voir, susciter la jalousie des Juifs. Ils doivent se dire, alors parmi nous, il y en a qui ont été retranchés, et puis le Seigneur a mis à ma place, hein, moi qui n'ai pas cru, il a mis à ma place un païen. Ça doit susciter la jalousie des Juifs, de dire, comment les païens, eux aussi, ils ont droit comme nous. Mais ce qui s'est passé dans l'histoire, comme je vous l'ai dit, c'est que les chrétiens, au lieu de susciter la jalousie, ont suscité l'amertume des juifs, en les persécutant, en les rejetant, en les haïssant. J'aimerais terminer ce matin avec l'élection irrévocable d'Israël. Et on va relire Romains 11, cette fois-ci la suite, 23. Romains 11, 23. Eux-mêmes, les juifs, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé, contrairement à ta nature, sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature, sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob les impiétés. Ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant, vous les païens, obtenu miséricorde. De même, eux les juifs ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. La théologie de la substitution rejette ces versets, parce qu'elle dit « Israël a été enlevé du plan de Dieu ». Paul vient de dire ici « Ils sont tombés dans leur durcissement le temps que les nations, les païens, puissent se convertir ». Quand il dit « Lorsque la totalité des païens sera entrée », il ne veut pas dire la totalité absolue. Il veut dire « Lorsque tous les païens qui doivent entrer, qui doivent être sauvés, seront sauvés », on ne sait pas quand. Quand le dernier entrera, Dieu dira, c'est la fin du temps des nations. Et Israël, à ce moment-là, rentrera à nouveau en prééminence dans le plan de Dieu. Mais là, nous sommes dans une phase un peu d'attente, où les païens ont la grâce ouverte. Dans l'Église, nous sommes égaux entre juifs et non-juifs, entre femmes et hommes, entre esclaves et libres. Les juifs n'ont pas, dans l'Église, un avantage sur nous. Ils n'ont pas plus d'accès à Dieu que nous. Nous sommes égaux, nous avons les mêmes grâces, le même accès, le même salut. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'Ancien Testament. Ils avaient plus de révélations que les non-juifs. Mais ainsi, nous croyons au contraire que, après l'enlèvement de l'Église, Israël va redevenir le centre du plan de Dieu. C'est là que Jésus-Christ va revenir. C'est là que l'Antéchrist va venir attaquer. C'est là que tout va se passer. C'est là que va se passer le royaume millénaire de Jésus. C'est là que les nations viendront adorer pendant 1000 ans. C'est là que les Arabes viendront, selon le prophète Ésaïe. Il dit, il y aura les Égyptiens, il y aura tout le monde qui viendra à Jérusalem. Ils seront unis à Israël. Vous imaginez ça? Difficile, hein? Et pourtant, ça va se réaliser. Or, ceux qui croient à la théologie de la substitution disent non, tout ça, c'est allégorique. Et vous allez peut-être en connaître et peut-être vous êtes parmi eux. Le plan de Dieu d'amour est toujours en vigueur. L'appel de Dieu est irrévocable. Ça veut dire qu'Israël a reçu des promesses en Abraham et c'est pour toujours. Regardez par exemple Genèse 48, 4. C'est Jacob qui parle. Genèse 48, 4. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours. Israël a le droit d'être en Israël. Le nom Palestine a été donné à ce territoire par les Romains, au début de notre ère, de l'ère chrétienne, parce que là, il y avait des restes des Philistins. Palestine vient de Philistins. Mais les Philistins ne possédaient pas tout Israël, c'était les Juifs qui étaient là en Israël. Mais les Romains, quand ils les ont chassés en 70, ont dit, on va éliminer toute trace de ces Juifs. On va changer le nom du pays, on va plus l'appeler Juda, Israël, on va l'appeler Palestine, le nom de leurs ennemis héréditaires. De même, il n'y a jamais eu vraiment de peuple palestinien au sens propre. Il y a eu les Philistins, mais les Palestiniens d'aujourd'hui sont en majorité des Jordaniens. Et c'est la politique qui a dit « c'est un peuple » pour s'opposer à Israël, Et la malédiction ou les souffrances du peuple palestinien qui sont grandes ne sont pas dues à Israël, elles sont dues à leurs gouvernants qui les tiennent dans la pauvreté alors qu'ils reçoivent des millions des États-Unis et de l'Europe, qui les gardent dans la haine, qui les endoctrinent depuis leur plus tendre enfance à haïr le juif, à se suicider, à être des shahids. Ils apprennent ça à l'école, à se dire, quand je serai grand, qu'est-ce que je vais être? Je vais être un shahid. Je vais me faire sauter avec de la dynamite pour tuer des juifs. Et on les tient comme ça dans la haine, au lieu de se regarder, de dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon pays? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir une vie qui compte? Et on dit, tout le sens à ta vie, c'est de haïr les juifs. Hein? Et Israël n'est pas le problème des Palestiniens. C'est eux-mêmes leur problème, c'est leur gouvernant. Et Israël a le droit à sa terre et elle est toujours aimée de Dieu. Jérémie 31, 3. Qu'est-ce qui est écrit? De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Je te conserve ma bonté. Jérémie a dit ça quand Israël était durement jugé par Dieu. Je t'aime d'un amour éternel. Nous, chrétiens, nous prenons souvent ce verset personnellement. En fait, nous ne faisons qu'appliquer ce verset à notre vie. Mais l'interprétation, c'est Dieu qui dit à son peuple, Israël, je t'aime d'un amour éternel. Cet amour ne sera jamais coupé, ne cessera jamais. Et même si à l'Église, aujourd'hui, l'Église est dans le plan de Dieu, mais Israël est toujours aussi dans le plan de Dieu. Et ça, c'est remis en question par beaucoup. Alors, Paul, dans Romains 11, dit que l'endurcissement d'Israël est momentané, mais qu'un jour, tout Israël sera sauvé. Quel est ce moment où tout Israël sera sauvé? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tous les Juifs vont se convertir d'un seul coup? Il y aura d'abord ce qu'on appelle la grande tribulation. Un moment où Dieu va purifier Israël et il va laisser que le reste. Ce thème du reste se trouve partout dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau. Et ce reste, c'est l'Israël de Dieu dont je vous ai parlé. Les vrais croyants, les Juifs qui croient vraiment. Et il va y avoir un temps de purification qui va être très dur, où, selon Zacharie, deux tiers d'Israël sera tué par les ennemis de Dieu, par leurs ennemis, et un tiers restera. Et même ce tiers sera mis encore dans le feu. Et qu'est-ce qui va rester, selon l'Apocalypse, comme juif croyant? Les 144 000 d'Apocalypse 7. Les témoins de Jéhovah se sont empressés de dire que c'était des témoins de Jéhovah, hein? Mais la Bible est claire, c'est 144 000 des 12 tribus d'Israël. Pourriez-vous me citer une épître qui s'adresse aux 12 tribus? Jacques, exactement. Je ne sais pas si vous avez jamais remarqué ça. Elle est adressée aux 12 tribus dans la dispersion. L'épître de Pierre également est adressée à des juifs qui sont étrangers. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'appliquer à nous, hein, mais c'est pour vous dire à quel point Israël est toujours dans la pensée de Dieu. L'épître aux Hébreux, évidemment, est adressée aux Juifs. Et un jour, Israël se convertira, c'est Zacharie 12:10 qui nous en parle, si vous voulez regarder avec moi. Un verset extraordinaire qu'on ne peut pas interpréter autrement que ce qu'il dit. « Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. » Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, comme on pleure sur un premier-né. Il y a, lorsque le Seigneur Jésus va revenir, tous les Juifs vont le voir, hein, et ils vont dire, nous l'avons percé. C'est lui notre Messie. Et tout Israël sera sauvé à ce moment-là, à la fin. Tous ceux qui restent, en fait, hein, vont être sauvés. Et les 144 000 Juifs qui seront des hommes vont certainement évangéliser le monde avec une force extraordinaire. Les prophéties sur Israël s'accomplissent sous nos yeux. En 1948, Renaissance, après plus de 18 siècles de dispersion. Normalement, une nation, quand vous êtes dispersé partout dans le monde pendant 18 siècles, vous n'existez plus, vous êtes assimilé à tout le monde. Vous perdez votre langue, ils avaient perdu l'hébreu, ils ne parlaient plus hébreu. C'était une langue morte. Et en 1948, d'un seul coup, renaissance. L'hébreu est à nouveau enseigné, parlé. C'est une langue vivante, c'est un miracle. Hein? Il n'y a aucune race, aucun peuple, aucune nation qui ait jamais connu ça. Et c'était annoncé par Ésaïe, hein? Une nation qui renaît en un jour. Et puis les voilà replantés dans le pays. Et qui se battent tant bien que mal pour faire prospérer Israël et pour ne pas être mis dehors par tous les pays arabes qui les entourent et qui veulent les jeter à la mer. Et Amos, chapitre 9, versets 14 et 15, disait « Je ramènerai les captifs de mon peuple, ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné. » Et nous croyons qu'Israël ne sera plus jamais arraché, même s'ils seront attaqués. Et Israël est un signe pour le monde. Ce petit pays de quelques millions d'habitants fait la une de tous nos journaux télévisés continuellement. Hein? Vous voyez ici une image satellite de ce petit pays qui est presque au centre de la terre, d'une certaine façon, hein? De la terre habitée. Et tout cela va accomplir les prophéties. Nous arrivons bientôt à la fin du temps des nations. Les nations foulent aux pieds Jérusalem, mais bientôt, le Seigneur va revenir et Jérusalem redeviendra le centre de l'adoration du règne de Christ. Quelle doit être notre attitude? Et c'est ma conclusion. Si nous sommes chrétiens d'origine non-juive, nous devons remercier le Seigneur de nous avoir inclus dans son olivier. Et nous devons penser à cela. Le Seigneur aurait pu me laisser dehors et dire « c'est seulement les Juifs qui seront sauvés ». Mais dans son amour, il savait déjà, il voulait que toute la terre soit bénie en Abraham. Deuxièmement, remercier nos amis juifs, d'une certaine façon, pour l'héritage qu'ils nous ont laissé. Ce sont les juifs qui ont recopié la Bible pendant des siècles, qui l'ont gardée, protégée, hein, aimée, répandue. Nous devons aussi rester humbles. En pensant que nous sommes juste des greffons. Hein, ça humilie de dire « je suis un greffon ». Alors que aujourd'hui la chrétienté, qu'est-ce qu'elle dit? La chrétienté, c'est occidentale. Hein, on dit, voilà, les chrétiens, ça veut dire tous ceux qui habitent au nord du monde, là. On pense jamais au Moyen-Orient. Pourtant, les chrétiens sont nés au Moyen-Orient. Mais c'est parce que l'histoire a essayé d'effacer toute trace juive. Mais je crois qu'il est temps de revenir à nos racines qui sont juives. Et puis, nous devons rendre jaloux les Juifs qui nous entourent. Il faut les rendre jaloux. Plutôt que de les regarder de travers en disant « Ah, ça c'est un Juif », nous devons aller vers eux particulièrement. Parce que quand un Juif revient être greffé sur son arbre, ça fait des choses extraordinaires. Et nous pouvons contribuer à cela en leur montrant l'amour pour Israël. Récemment, il y a l'église baptiste de Montrouge qui a évangélisé les Juifs dans Paris. Et là, j'ai eu le droit à toutes les sonneries aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a plus. Ils ont évangélisé les Juifs et d'habitude c'est difficile parce que dès qu'on dit on est chrétien, ils refusent tout traité, toute discussion. Et là, ils sont venus avec des traités en disant nous sommes amis des Juifs et nous voulons vous témoigner notre amour, notre amitié, notre foi en Jésus. Et il dit, ils étaient bouleversés, tous ceux à qui ils sont adressés, ils se rendent compte qu'il y a de moins en moins d'amis des Juifs en France. Et ils ont besoin de savoir que les chrétiens bibliques sont amis des Juifs et veulent leur parler de leur Sauveur, de leur Messie. Il ne faut pas non plus dire « je suis ami des Juifs, mais je ne leur parle pas de Jésus ». C'est ce qui arrive malheureusement en Israël. Il y a l'ambassade chrétienne en Israël, qui est une organisation chrétienne, qui a pour principe, dans leur statut, de ne pas annoncer l'Évangile aux Juifs. Je vois pas à quoi ils servent. Et ils disent, nous voulons simplement aider Israël. Et ça, c'est un piège, hein, pour les chrétiens. Nous ne sommes pas là pour aider Israël matériellement. Nous sommes là pour les rendre jaloux et les ramener sur l'arbre, sur l'olivier. Et puis, nous devons annoncer la résurrection de Christ, la résurrection du Messie. Nous devons bénir les Juifs, les aider contre leurs persécuteurs. Nous devons prendre position. Les radios et télé françaises sont pro-palestiniennes, pro-arabes. La diplomatie française est pro-arabe. Elle a forcément un biais. On ne doit pas être contre les Arabes non plus. Parce que là ce n'est pas chrétien non plus. Mais quand il y a des fausses informations, il faut être au courant et savoir rétablir la vérité factuelle quand on peut y avoir accès. Et on doit prendre position aussi pour les juifs. Ça, c'est pas facile. Parce que vous êtes mal vu. Déjà que vous êtes chrétien évangélique, vous êtes considéré comme une secte. Si en plus vous dites que vous êtes ami des juifs, ça rajoute. Mais il faut prendre position. Pourquoi Matthieu 25, 40. Le jugement des nations. Et je vous rappelle que nation, ça veut dire des non-juifs. Matthieu 25, 40. Ce verset bien connu. Mal appliqué, souvent. Le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Qui sont ces plus petits de ces frères? Ce sont ces frères juifs. Vous qui n'êtes pas juifs, chaque fois que vous bénissez un juif, c'est compté, c'est comptabilisé par le Seigneur. Chaque fois que vous bénissez Israël, vous participez à la bénédiction d'Abraham. Il dit, tous ceux qui te béniront seront bénis. C'est valable pour les gouvernements, c'est valable pour les individus. Alors, eh bien, retrouvons notre racine, notre humilité à côté de l'olivier. C'est la dernière image, voilà. Ici, c'est un grand olivier, je crois que c'est à Jérusalem. On est tout petit à côté et c'est par la grâce de Dieu qu'on a été greffé. J'aimerais terminer par la prière et laisser peut-être une minute si vous avez des questions. Prions.